Bien, alors on avait vu la dernière fois cette première partie qui finalement aboutissait au Homer en ayant fait une promenade à travers toute l'histoire juive, quoi, finalement. Alors il reste beaucoup à faire, mais il reste à comprendre pourquoi, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi on nous a raconté tout ça, avec cette histoire, en quelque sorte, avec le Homer. Qu'est-ce que le Homer a à voir avec toute l'histoire, finalement, en disant à chaque fois que, vous vous souvenez comment c'était organisé, c'était le pasouk dans Iov qui disait Asher Ketziro Raev Yochel, qui fait le distinguo entre celui qui moissonne et celui qui va manger parce qu'il a faim. Donc il avait dit, par exemple, celui qui a moissonné, c'était Nimrod, celui qui a faim et qui va manger, c'est Abraham Avinu, et on donne n'importe une preuve. Et ensuite, il y a l'autre moitié du suite du verset qui dit que effectivement, ça n'est pas par les armes qu'on a pris ce qu'on a obtenu, que Abraham a obtenu ce qu'il a obtenu de Nimrod, etc. Mais c'était avec Tfila et Tachanunim, par la prière et les supplications adressées à Hachem, évidemment. Pas celui qui va nourrir, bien sûr. Alors ça a été... Et comment ça s'est fait? C'est pas pareil chez Abraham Avinu, c'est par le biais de la guerre des quatre rois contre les cinq, avec l'histoire de Lot, et tout le piège qu'ils avaient tendu pour essayer d'attraper... Abraham Avinu, et que finalement c'est Abraham Avinu qui a fait main basse sur tout leur bien, quoi, sur théoriquement. Bien qu'on ne voit pas très bien concrètement qu'il l'ait fait, parce que bon, c'est pas très clair. C'est assez lointain de ce qu'on dit dans Bereshit sur Abraham Avinu, puisque Dafka il a même pas pris le butin de Sodome, etc. Donc sens de la prière d'Abraham Avinu, puisque il a fait la guerre contre tout ce monde-là, et c'est pas par les armes qu'il a gagné. Et ensuite, on a passé de Nimrod à Paro. Et celui qui a récupéré les biens de Paro, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'était pas par la guerre, pas par les armes, mais par la prière. Alors, ce point-là, par exemple, chez Moshe Rabbeinu, c'est étonnant. Parce que quel pasouk qu'on amène. Ah, attendez, ça bouge là. Le pasouk qu'on amène pour dire que Moshe Rabbeinu, c'est par la prière qu'il a obtenu les choses. Regardez quel pasouk c'est. Regardez le pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk là-dedans? Oui. J'amène un pasouk.
Comment?
On amène un pasouk pour dire que Moshe Rabbeinu il a obtenu par la prière ce qu'il a obtenu, alors que le pasouk qu'on amène, c'est un pasouk où Hachem lui dit, mais cesse de prier, avance. C'est un peu paradoxal, d'accord. Il est dit, Matthieu Sakalaït, c'est au moment de la mer. Effectivement, à la mer, ils vont avoir un butin fabuleux. Donc il va ramasser, effectivement, toutes ces richesses de Paro. Mais on dit que c'est par la prière. Mais c'est une prière. Le verset qui dit qu'il a prié, c'est un verset où Hachem lui dit cesse de prier, hein, dit au Bnei Israël d'avancer. Paradoxal.
Ça ne veut pas dire que la Tchila n'est pas passée. Est-ce que ça veut dire que la Tchila n'a pas
non, mais c'est juste en passant. Amener un pasouk qui dit qu'on parle de prière à un moment où. Alors que le pasouk dit ne prie pas. Peut-être ça veut dire ne prie pas maintenant pour le passage de la mer. Parce que ça dépend de leur bitachon, ça dépend de leur confiance en Hachem, il faut qu'ils avancent. Mais la prière, elle leur a servi, même si cette prière n'était pas nécessaire pour passer, mais la prière de Moshe Rabbeinu le sert. Elle leur a servi pour ça. On a l'impression que cette prière qui était inutile pour le passage, c'est la prière qui a fait qu'ils ont récupéré le butin. Le butin, ils l'ont par ce biais-là. Abraham Avinu, c'est pas marqué par quelle prière, où était la prière. Peut-être ce qu'il faut entendre, c'est que chez Abraham Avinu, la guerre qui lui a donné ensuite ses richesses, dont il n'a pas voulu profiter finalement, en tout cas peut-être qu'il a pris les richesses des autres, du roi de Sodome, il ne voulait pas prendre. Peut-être des autres, il a peut-être pris. Mais je crois, il semble que non, parce que enfin, ça dépend comment on lit. Parce que lui, il dit, je ne veux pas qu'on puisse dire que tu puisses dire que tu m'as enrichi, je sais qu'Hachem va m'enrichir. Mais toi, peut-être c'était le roi de Sodome qui était une crapule telle qu'il est capable de dire, c'est moi qui t'ai enrichi, alors qu'en réalité... il vient et il dit donne-moi ça, alors qu'il a droit à rien du tout, il a perdu la guerre, et c'est tout, et Abraham Avinu a gagné la guerre. Et peut-être qu'effectivement c'est seulement le roi de Sodome qui ne voulait pas prendre, et donc c'est d'avoir été faire la guerre avec Eliezer uniquement, et d'avoir fait la guerre comme on avait vu, qu'il jetait de la paille et de la poussière. C'est comme ça qu'il a fait la guerre contre eux. Il ne voulait pas se salir les mains, il ne voulait pas utiliser des armes. Donc évidemment, la poussière et la paille, bon, ben c'est, on peut le lire comme étant la prière. Et c'est sûr qu'il n'a pas... C'est pas n'importe quoi. C'était la prière et la paille. Un peu comme on dit sur Yaakov Avinu, à l'inverse, un peu que quand il dit « ce que j'ai obtenu, je l'ai obtenu Becharvi ou Bekashti ». Je l'ai obtenu avec mon glaive et avec mon arc. Et là, on dit, mais c'est la prière et le limoud. Là aussi, vraiment, il a pris Eliezer, qui est son alter ego, et il a, quelque part, c'est grâce au limoud et grâce à la prière qu'ils ont gagné. Mais c'est plus explicite chez Moshe Rabbeinu.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a un pasouk qui dit qu'il a prié. Il lui dit, cesse de prier. Mais justement, c'est le passage qui nous montre que c'est par la prière qu'il l'a obtenu. Et donc, paradoxalement, ça veut dire que la prière n'était, comme je vous ai dit, la prière n'était pas nécessaire pour le passage de la mer, mais elle était efficace pour le butin. Si maintenant on regarde les autres, Tessichon et Og, et de nouveau c'est Moshe qui ramasse qui ramasse la mise. Alors là, ici, qu'est-ce que Hachem lui dit à Moshe ? Il lui dit ne le crains pas. On ne voit pas non plus ici que. Ce n'est pas marqué explicitement que Moshe Rabbeinu a prié. À moins qu'on dise que 16, pas sûr. Regardez le. Question. On voit pas que. Non, c'est pas sûr qu'on voit pas qu'il est.
Calme, d'accord. Il faut l'appeler en faisant Déborah Calme. En un seul mot, Déborah Calme.
Qui? Quoi?
Jean-Claude Calme.
Et quoi? Je l'ai appelé avec. J'ai appelé le.
Non, mais ça marche pas son truc. Alors il propose d'appeler sur. Il faudrait qu'on l'appelle sur Déborah Calme. Bon, on va essayer.
Mais je ne l'ai pas, moi. Comment je peux l'appeler sur Deborah Kahn 2?
Ben si, on vient. Oui, mince. Voilà. Bon,
comment on fait pour appeler? Parce qu'elle n'est pas. Il ne s'affiche pas. Je pas les contacts, je n'ai pas. Elle est là. Okay.
C'est Elmi.
Oui, mais je n'y arrive pas parce qu'il est. Il ne m'a pas appelé, donc je n'ai pas dans ma liste de contacts de Deborah Kahn 2. Donc je ne peux pas l'ajouter. Du Skype. Alors, donc là, et lui aussi, il prie probablement pour qu'Hachem le protège de Og. Les Mefarshim disent que il n'avait pas peur de l'armée de Og, mais il a peur de Og lui-même. Parce que Og a du mérite, puisque c'est lui qui est venu annoncer à Abraham Avinu que Lot était prisonnier. Et donc Abraham Avinu a peur que Og ait un mérite tel que ça mette en danger le clan d'Israël, avec tous les mérites du clan d'Israël, tout Moshe Rabbeinu et tout. Moshe Rabbeinu craint que le mérite de Og, qui est venu lui annoncer, donc qui a permis à Abraham Avinu d'aller sauver Lot, que ce mérite-là soit tel qu'il pèse aussi lourd que tout le clan d'Israël, quoi. Et quand on réfléchit que, en fait, Hazal dit que Og, il est venu annoncer que Lot était prisonnier, pas du tout pour sauver Lot, mais pour qu'Abraham Avinu aille faire la guerre, et qu'il puisse prendre qu'il meure, et qu'il puisse épouser Sarah. C'est tout à fait désintéressé. Et avec tout ça, mon cher Avinu a peur de son mérite. Donc il prie, pour... et Hachem dit, ça va. Ensuite, on a, qui est-ce qui va en profiter? C'est Moshe, Aaron et tous leurs followers, comme ils disent ici. Tous ceux qui les ont suivis. Donc c'est le nouveau l'Ebnei Israël qui profite. Ensuite, il y a une autre exposition, comme ils disent ici, que ceux qui ont eu faim, c'était Déborah et Barak. Et ils ont fait la guerre. Et ils ont battu Sisra finalement. Donc là, ici, peut-être que c'est marqué qu'ils se sont battus contre Sisra. On dit « Minashamayim nilchamu ». Le pasuk dit qu'eux, ils ont fait la guerre « Minashamayim ». C'est un peu étrange, ils ont fait la guerre Min HaShamayim, c'est sûrement Tfila et Tachanunim, Min HaShamayim. Comment ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre au ciel contre Sisra. Et donc, ils ont récupéré le bien de ce... Enfin, c'est lui qui représentait tout son royaume, tout le royaume, donc. Et ensuite, il y a Sanhérib, qui est donc l'empereur d'Assyrie. Et ceux qui ont faim, c'est le roi Hizkiyahou et le Navi Yeshayahou, son cousin. Et finalement, alors c'est marqué explicitement ici, « Vaït palel Hizkiyahou amelech Yeshayahou ben Amot sanavi ». Eux, ils ont prié et ils ont récupéré les biens de Sanhérib. Et ensuite, on a Aman. Ceux qui ont faim, c'est Esther et Mordechai. Et on voit bien que Sakvaefer Yutzal Rabim, c'est-à-dire qu'il a prié, il a supplié Hachem Mordechai. Donc ils ont récupéré l'argent de Haman. Après, il y a les 31 rois. Et c'est Yoshua. Et donc là, il s'est marqué, puis il s'est marqué « Vayomer Hashem el Yoshua, kum lach, lève-toi », ça veut dire en fait, il a prié Hashem, et Hashem lui a dit « Lève-toi, il va faire la guerre maintenant ». Et finalement, jusqu'à présent, on avait parlé de butin, on a parlé de richesse, etc. Mais ici, la guerre contre les 31 rois, le butin en question, alors c'est marqué « Mamonam shel shloshim ve'echad melachim ». Yoshua, c'est Yoshua qui a hérité. « Ou me'ezeshut zachou Israël l'irash haaretz ». Maintenant, on demande, mais alors quel est le mérite d'emmener Israël, d'hériter de la terre? C'est la mitzvah du Homer. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu leur dit « Kitavu la haaretz uktartem » Dès que vous allez moissonner, vous amènerez le Homer. Donc si on essaie de mettre ça en rapport avec ce qu'on a vu avant, avec tous les autres cas, alors comment ça se présente? Qu'est-ce que vous diriez? Premièrement, avant de regarder, regardez quand même le fait qu'on dit quel est le mérite d'Israël pour hériter de la terre, d'accord, c'est la mitzvah du Homer. On avait déjà commencé un peu à réfléchir. La mitzvah du Homer, c'est quoi? C'est que Israël, avant d'hériter réellement de la terre, avant de se battre, ils ont dû passer le Jourdain, il y a une tête de pont en quelque sorte d'Ebné Israël, ils sont de l'autre côté du Jourdain, mais ils n'ont encore pas commencé la guerre, ils sont à côté d'Yericho probablement, ça a commencé là-bas, et ils ont déjà planté de l'orge, et l'orge est déjà mûre pour qu'ils puissent faire le corban de Homer. Il y a un Mishkan avec eux, donc ils vont pouvoir amener le Corban de Homer. Donc il faut récolter l'orge, il faut en faire de la farine, etc. Et la balancer, c'est ce fameux balancement. Donc ils font cette mitzvah du Homer. A priori, c'est le Srout, c'est la mitzvah du Homer qu'ils ont fait. L'autre solution, ce serait de dire, c'est la mitzvah du Homer, c'est-à-dire du Homer qu'ils vont faire. Ils n'ont pas fait de Homer encore, pas du tout. Peut-être... Non, c'est pas un endroit, c'est pas au bord du Jourdain, peut-être qu'on ramasse cette orge-là, puis c'est très, ça n'a pas l'air de tout ça, mais c'est peut-être simplement qu'ils vont faire la mitzvah du Homer. Et donc, cette mitzvah du Homer, maintenant, si je la mets en rapport avec ce qu'on a vu précédemment, on a vu précédemment que pour obtenir ces résultats, ils voulaient l'argent de Nimrod, etc., les biens et tout, c'était Tfila et Tachanunim. Donc si je regarde terme à terme, je dois dire que le Homer représente Tfila et Tachanunim. Bon, c'est a priori, c'est comme ça, parce que sinon on ne comprend pas la suite. Bon, le moyen d'obtenir ce qu'on cherche à obtenir, c'est la prière et les Tachanunim, ce n'est pas les armes. C'est-à-dire qu'avant, ils vont faire la guerre, etc., c'est vrai, mais la terre, ils ne l'ont pas obtenue par les armes, en fait. Ils l'ont obtenue, alors on aurait dû dire Tfila et Tachanunim, puisque jusqu'à présent, c'était toujours comme ça. Et maintenant, au lieu de Tfila et Tachanunim, Moshe Rabbeinu leur dit, c'est du Homer qu'il s'agit. Donc ici, on est en train de dire un truc gigantesque, que ce Corban du Homer, d'accord, c'est lui qui va permettre au Bnei Israël d'hériter de la terre, et qu'il y a une dimension de Tfila et de Tachanunim dans le Homer. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne un petit peu, en quoi, parce que sinon ça n'a rien à voir, le Homer, là, il est comme un cheveu sur la soupe dans ce Midrash. On voit très bien, toute la progression, c'est, il faut qu'on comprenne, à chaque génération, il a fallu une Tfila, la Tfila adéquate, des fois c'était le deuil, chez Mordechai, c'était pas seulement la prière. Sak va'efer yutsad rabim, le passage qui dit, là, il a pratiqué le deuil. D'accord, il s'est habillé en vêtements de deuil, Mordechai. Alors c'est sûr qu'il a prié, etc. Mais là, c'est exprimé en termes de deuil. Pratique du deuil au lieu de la prière. Et sûrement là aussi, mais le passage qui ne te parle pas de la prière. Il parle de la pratique du deuil. Et par exemple, Barak est... Alors, ceci, bien qu'ensuite, les Bnei Israël, ils vont gagner une bataille dans laquelle ils vont tuer les gens. Il va y avoir la guerre. Bon, mais on pourrait dire, la guerre, en réalité, elle a eu lieu après la mort d'Aman. Bon, on a d'abord pendu Aman, etc. Et puis la guerre, elle a lieu après, quoi. C'est peut-être dans la foulée, mais au moment de la chute, Aman, il est tombé. Et quand Aman tombe, alors ils vont ensuite dire, il faut rapporter le décret. Il dit, c'est pas possible, envoyer des messagers, que les Juifs se tiennent à carreau, et qu'ils attaquent ceux qui allaient les attaquer. Donc c'est là qu'il y a eu des morts. La guerre, elle est consécutive, enfin, elle est postérieure à la chute d'Aman. Et là, on dit, c'est qu'est-ce que les Bnei Israël, ils ont gagné? Ils ont gagné Mamono Shel Aman, les biens d'Aman. Quand Mordechai, il a pris la place du grand vizir, donc il a pris probablement tout l'argent de l'ex-grand vizir. Et chez Avraham Avinu, la prière en tant que telle, la prière est anonyme, ne s'est pas exprimée, on ne nous parle pas de la prière, on nous dit de la guerre qu'il a faite, mais il l'a faite avec Eliezer, c'est-à-dire c'est une guerre qui a été faite en pleine confiance avec Hachem. Ils sont allés à deux en tout et pour tout pour aller se battre contre les armées de 9 peuples en fait. 4 plus 5. Donc ce n'est pas dit en termes de prière. Mais on interprète ça en termes de prière. Donc il y a des équivalents de la prière. Il y a faire une guerre dans la Emouna, faire une guerre mina shamayim, comme on a dit de Barak et de Dvorah. Il y a pratiquer le deuil quand le clan Israël est en danger de mort. Pratiquer. Donc là on voit très clairement que on nous donne des équivalents de Tfila et Tachanunim. Et donc le Homer, c'est aussi un équivalent de Tfila et Tachanunim. Seulement, bon, on comprend bien que faire la guerre dans la Emouna, faire la guerre Mina Shamaim, ou bien pratiquer le deuil pour le cas d'Israël en danger, on comprend ce que ça puisse être un équivalent. Mais on a du mal à comprendre que le Homer soit un équivalent de la prière de Tachanunim. C'est ça que je vous demandais, est-ce que vous avez une idée, si vous voulez, de... D'abord, ça mêle ce Corban Homer à une hauteur assez impressionnante. Maintenant, nous, si je regarde, qu'est-ce que nous savons, nous, du Homer ? Le Homer, c'est donc cette fameuse mesure d'orge qu'on amenait, qu'on balançait, et qui était le premier jour de la Sphira qui mène à un matin de Torah. Bon, c'est une mitzvah dans la Torah, de compter les jours et les semaines, donc les 49 versus 7 semaines, 49 jours, 7 semaines, jusqu'au 50e qui est Shavuot. Donc ici, il y a quelque chose de très important, parce que le début de quelque chose, le début d'un conte, d'accord, quelque part, c'est comme si il contenait tous les développements de la suite. Le 1 à partir duquel on va commencer à compter, si vous voulez, il est d'une certaine manière potentiellement, il a en lui les développements ultérieurs, le 2, le 3, le 49. Ok ? Et donc, qu'est-ce que c'est que cette sphira, ce décompte que nous faisons ? Bon, c'est Sphirata Homer, ici, comment est-ce que... Qu'est-ce que ça vous dit, quoi ? Qu'est-ce que vous diriez ? Il y a sûrement un lien avec Matan Torah dans la mesure où ça mène à Matan Torah.
Mais pourquoi,
hein? Mais oui.
Homer,
ah non?
Pourquoi le Homer?
Ben c'est ça que je
vois pas. En plus, le Homer, c'est une nourriture animale. L'orge, c'est une nourriture animale qui est donnée. Alors...
Oui, bon, c'est un des éléments qu'on apporte et pour dire qu'on est passé d'un Pessah, enfin de Motsé Pessah, où la nourriture est encore. On amène un corban en nourriture aussi animale, pas seulement, mais aussi animale, et pour passer à Shavuot où les jetés à l'Echem, c'est du blé. C'est la nourriture de la Chochma, c'est la nourriture qui est vraiment humaine. D'après certains, c'est même le fruit de. C'est l'arbre du Gan Eden, le blé. D'après certains.
Alors, le Homer, il n'est pas du côté de la Chochma.
Il n'est pas encore, oui, il n'est pas encore du côté de la, il n'est pas du côté de la Chochma. Alors, il est du côté de quoi ?
Alors, est-ce qu'on peut considérer comme un corban ou pas ?
Oui, c'est un corban.
Alors, si c'est un corban ici, c'est donc un rapprochement qui permet de se rapprocher.
Oui.
Si ça permet de se rapprocher, est-ce qu'il n'y a pas une voie possible pour comprendre pourquoi il y aurait un lien ?
Oui, mais si vous voulez, n'importe quel corban fera l'affaire dans ce cas-là. Pourquoi c'est le Homer ? Alors, vous pouvez dire, le Homer, il est le 1 dans le décompte, il est aussi le premier, c'est aussi la première sérale qui est mûre, etc., dans l'année en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on fait, une des raisons pour lesquelles on fait avec ça, c'est parce que c'est le commencement. C'est vraiment, il est un commencement de l'année, comment se fait, de céréalière, je ne sais pas, en Eretz Israël.
Moi, j'étais tenté de penser que c'était déjà venu de la Chochma.
Et on peut imaginer comme ça, parce que si vous dites...
Compter, attendre, anticiper, prévoir...
Oui, non, mais même si vous dites que... Vous avez proposé de dire que ce n'est pas du côté de la Chochma, il n'est pas du côté de la Chochma. Et je vous ai dit avant que le 1, il porte en lui tous les développements ultérieurs. C'est comme si le reste, c'était un déploiement de ce qui était regroupé dans le Homer. Donc c'est toute la préparation à la Kabbalat HaTorah qu'il y a dans le Homer. Ces 49 jours de préparation, ils sont en fait regroupés dans le numéro 1, dans le 1, et le 1, c'est le Homer.
Est-ce qu'on a une idée de la signification du balancement aussi là? c'est balancement, c'est...
Bon, c'est une façon de mettre sur l'autel, de ne pas mettre sur l'autel, parce qu'on ne met pas de la farine sur l'autel. Et on met, mais, il y a aussi, dans les bikurim aussi, il y aura du balancement, parce qu'on ne met pas des fruits sur l'autel.
Il y a d'autres balancements aussi.
Oui, oui, les bikurim.
Les parties de l'animal qui vont être...
Non, mais ça, on ne les balance pas, on les pose sur l'autel. Ça veut dire que dans la tfila, je ne regarde pas le côté tachanoun. Tachanoun, c'est les supplications. Dans la prière, il y a des morceaux de prière où on supplie. Et ça, c'est ce qu'on appelle les tachanounim, d'une manière. Et donc, je regarde dans la prière l'autre partie de la prière. La partie qui n'est pas la supplication elle-même, c'est la construction de la volonté d'Hachem, d'une certaine manière. On construit le fait qu'Hachem va donner au monde ce qu'on va lui demander. Donc c'est le commencement d'une forme de responsabilité pour le monde, d'accord, dans la tfila. C'est, je suis responsable. Donc chaque fois qu'ils ont agi, ils ont considéré qu'ils étaient responsables, et à ce titre-là, c'est comme ça qu'ils ont... Voilà, on répond, on est... Et donc ces personnages, que ce soit Moshe, Aaron, précédemment, que ce soit ensuite Dvorah et Balak et Yeshayahu et Chizkiyahu, c'est des personnages qui jouent un rôle, qui représentent le clan Israël à un certain moment, et c'est un clan Israël qui prie, c'est-à-dire qui est responsable du monde et qui est en charge, qui prie avant même qu'il y ait une mitzvah, pour certains, avant même qu'il y ait une mitzvah de prier. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'il fallait s'investir, il fallait se responsabiliser, on peut presque dire avant Matan Torah même. Donc le Homer, qui est le commencement de cette période, les Bnei Israël se qualifient pour Shavuot, c'est éclairé par ce qu'on a vu précédemment. C'est que la dimension du Homer, c'est la dimension d'un commencement de responsabilité. Et c'est pour ça que ça se fait le lendemain de Pessah. Pessah, c'est ce qu'on appelle l'Itarota de Leila. Tout est venu d'en haut à Pessah. Le commencement de ce qui commence, commence à venir d'en bas, par nous-mêmes, c'est le Homer. Le Homer, et on commence tout bas. On commence par une nourriture aussi animale. D'accord, et on va arriver jusqu'à la Chorma, mais il y a déjà dans ce commencement, d'accord, donc le commencement, il a en lui tous les développements ultérieurs. Donc c'est l'idée que la qualification pour la terre d'Israël, c'est quoi? C'est de se sentir responsable. Donc, si on se sent responsable du monde, alors on peut nous donner une terre dont on va être responsable. C'est la terre des Bnei Israël, elle l'aurait donnée au titre de leur responsabilité.
Et cette notion de prise de responsabilité, ça traverse toutes les situations.
Alors, c'est toutes ces situations-là, c'est chaque fois que quelqu'un s'est investi, s'est senti responsable, et il répond de la situation. Et c'est eux qui, effectivement, finissent par récupérer les choses. C'est-à-dire, quand on est responsable, alors effectivement, on te donne de quoi assumer tes responsabilités. Oui, parce que maintenant on est sur la terre. C'est-à-dire, on est sur la terre, on est confronté au concret, quoi.
C'est une vraie guerre, c'est comme celle d'Abraham.
Mais c'est aussi une vraie guerre, celle d'Abraham. Il ne s'est pas battu avec les armes de l'ennemi. Nous aussi, on a essayé de...
Il rentrait protéger le pays.
Et si on avait fait de nouveau des miracles, alors ce serait de nouveau Itaota de Leila. Mm. Ouais, le travail d'entrer en Eretz Israël, c'est entrer dans la forme
de la brise.
Oui, enfin, c'est vrai aussi l'autre, mais concret, quoi, de façon plus concrète, en fait. C'est-à-dire se confronter à. Pourquoi, vous pourrez dire pourquoi est-ce qu'il faut travailler en Eretz Israël? Pourquoi Hachem n'a pas continué, il peut nous déverser la manne. Il faut aussi imaginer. Mais justement, c'est le problème, c'est que maintenant. La grande difficulté, c'est qu'on va devoir fonctionner comme les autres, tout en sachant que c'est pas vrai du tout, ça se passe pas comme les autres. C'est-à-dire, on va devoir moissonner, on va devoir donc semer, on va devoir labourer, semer, et moissonner, etc., comme les autres. Comme si, en fait, le clan d'Israël vivait de la même manière. Et donc, soumis aux lois de la nature et tout. Et comme Rambam dit qu'à partir de Matan Torah, à partir de l'Yetziat Israël, pardon, on n'est plus dans ce monde-là, nous. Nous, on ne fonctionne pas selon les lois de la nature. On fonctionne selon le principe de Sra'ar Ve'onesh, c'est-à-dire on est sanctionné positivement, négativement. Alors, ça passe souvent par le biais de la nature. Mais bon, dans la nature, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de manifestations, bon, qui sont des manifestations de... Voilà, ben, c'est où il pleut pas, il y a du soleil, il n'y en a pas, il y a... etc. Alors, ça, c'est bien sûr Hachem qui gère tout ça. Et alors, c'est géré sûrement avec le principe, enfin, d'après ce que Rambam dit, c'est géré avec le principe de Sra'ar Ve'onesh. C'est pas soumis à l'aléatoire des lois de la nature, encore que les lois de la nature, elles apparaissent comme ça, comme si elles étaient indépendantes. Mais comme on ne sait pas non plus toujours où on en est et pourquoi, même nous qui savons que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne sait pas toujours si est-ce que le clan Israël se conduit suffisamment mal pour ou bien suffisamment bien pour, puisque Hachem la sécheresh bonote que nous ne comprenons pas. Donc, de toute façon, on ne sait pas lire. On sait pas lire. Et je crois que c'est ça. Je crois que ce qu'on a expliqué, c'est qu'est-ce que c'est exactement le Homer à la lumière de ce qui s'est passé dans toutes ces générations, dans tous ces cas qui sont énumérés. Je crois que ça donne un éclairage intéressant sur le Homer. Bien, on va continuer un peu. Pardon ? Oui, c'est bien. Oui. C'est une bonne éclairage. Alors, on est au 5. Ça, ici aussi c'est 5. Oui. Ve'enif et ta Homer lifne Hashem. Il balancera le Homer devant Hashem. Le ketsad ayamanifo. Et comment est-ce qu'il le balançait? Avchama barukva, beshem rabbi Yossi bar Chanina, amar, molich ou mevi, male ou morid. Donc, il fait un mouvement qui part de lui vers l'extérieur, ensuite il ramène à lui, et Malé ou Morit. Molif ou Mevi, le Miché à Olam Kulo Shelo. Donc il fait ses mouvements, il l'amène vers celui, Molir, c'est-à-dire il va vers celui. Auquel le monde entier appartient. Et puis Malé ou Morid, le Miché à Elionim va Tartonim Shelo. Et il fait mouvement vers le haut et vers le bas, entre l'en haut et l'en bas, pour dire que ce qui est en haut et ce qui est en bas, aussi, comme ce qui est en bas, elle lui appartient. Et Rabbi Simon, Rabbi Yehuda, Rabbi Yoshua, il dit autrement. Il lui dit, Moli Chumevi, Kedel Vatel Ruchot Kashot, Male Umorid, Kedel Vatel Tlalim Kashim. Ça, c'est ce que Rashi dit sur le Lulav, dans Maseret Sukkah. Qu'il fait les mouvements de va et vient pour annuler les mauvais vents. Et il fait les mouvements de vers le haut et vers le bas pour annuler les mauvaises pluies. Alors, cette explication, elle va beaucoup mieux sur le Lulav que sur le Homer. Parce qu'étant donné qu'à Sukkot, tout tourne autour du problème de l'eau et de la pluie, alors les vents et la pluie, c'est vraiment le sujet de Sukkot. Donc avec le Lulav, on fait ces mouvements, et Rashi sur place, dans Maseret Sukkah, il explique comme ça, le Lulav, pourquoi on fait ça, pour les vents et les pluies. Qui en soi déjà est assez énorme, parce que quelque part ça veut dire que ces mouvements-là, qui nous sont prescrits, indiquent que nous sommes responsables de la météo. Donc s'il y a vraiment quelque chose dont c'est difficile d'imaginer qu'on est responsable, d'accord ? Eh bien c'est ça, eh bien on est responsable. Parce que le Midrash ici, il amène cette chita-là aussi sur le Homer. Que dans le Homer, il y a cette. Puisque Homer, c'est la notion de responsabilité. Alors, c'est le mouvement de. Molir, j'amène envers moi. C'est-à-dire, je reconnais que les choses sont à Hachem, mais ce mouvement-là, je le fais, c'est Hachem me donne. C'est comme on dit, Aretz Natan Livni Adam. On dit non. C'est l'hymne que Hachem a donné la terre aux hommes. Mais dans Tehilim 24, on dit l'Hachem a arrêté sous l'eau. On dit la terre, elle appartient à Hachem. Elle et tout son contenu lui appartient. Donc il nous le donne et nous on dit non, ça t'appartient à toi. Mais dans cet ordre-là, alors, la vérité, comme je vous l'ai présenté, c'est pas le bon ordre. Si on regarde l'ordre des Tehilim, parce que le Tehilim de l'Hachem Aretz Umloa, c'est le 24, il est bien avant les Tehilim du Hallel, qui sont à la fin dans les numéros 100. Donc, il faut dire d'abord l'Hachem Aretz Umloa, et après, il nous le donne. C'est-à-dire, si nous reconnaissons les choses, alors Hachem nous les donne vraiment. Ah, mais pour le reconnaître, il faut qu'il me les donne au préalable. Je ne peux pas donner à Hachem ce que je n'ai pas. Il a bien fallu qu'il me le donne d'abord. Mais ce don-là, c'est la naissance, ça c'est inné. Si maintenant, ce que Hachem m'a donné comme capital de départ, je sais le donner à Hachem, alors ça me revient vraiment. C'est-à-dire comment est-ce que j'acquiers ce qu'Hachem m'avait donné au départ en commençant par donner à Hachem. Donner à Hachem, à ce moment, ça revient. Et puis à part ça, il y a cette idée gigantesque qui est que en haut et en bas, c'est la même chose. On dit que le monde d'en haut et le monde d'en bas, ils se correspondent. Et que ça fonctionne, par exemple, que dans le monde d'en haut, à cause de vous, ils jugent avec les mêmes principes, à savoir le témoignage, le témoin, comme le Beit Din d'en bas juge, le système de témoignage. Et donc, ce qui se passe en bas et ce qui se passe en haut, c'est toujours. Tout ça, c'est Hachem. Ça veut dire, c'est pas que ce qui se passe en bas dépend de nous et ce qui se passe en haut dépend d'Hachem. En bas comme en haut, ça dépend d'Hachem. comme là-bas aussi, ce que je prends, que j'amène vers moi, je sais que c'est Hachem, c'est Hachem qui me le donne. Il faut que je sois conscient que c'est Hachem qui me le donne. Là aussi, les choses d'en haut, les choses d'en bas, même si en fait, d'un côté, on nous dit que tout dépend de la tfila, par la tfila, on agit sur le monde, les mondes d'en haut, etc. Tout ça, c'est vrai. Bon, mais tout ça, ça appartient ultimement à Hachem, même si les choses ont l'air de se faire par notre intermédiaire. Bon, c'est, semble-t-il, à travers nous, si on peut parler comme ça.
Par la Gemara Brachot, par rapport au Télim que vous avez cité, la Gemara résout la contribution, enfin, elle dit comme ça, si l'homme fait le ration de Hachem, alors la terre est à lui. Ici, il fait la ration, c'est.
Donc si tu donnes à Hachem, alors Hachem te donne. Donner à Hachem, c'est faire le ration à Hachem. Donc, au 4, on a vu la responsabilité. Et maintenant, comment est-ce qu'on exerce cette responsabilité? La dernière chose de ce Rav Simon Bar Yehoshua, on a l'impression que si on nous dit qu'on est responsable de la météo, ça met bien l'accent sur le fait qu'on est responsable de choses qui nous dépassent complètement. Que la responsabilité n'est pas quelque chose qu'on comprend facilement, pourquoi on serait responsable. Alors, ça veut dire qu'on se sente responsable de la capacité qu'on a de faire sauter le monde aujourd'hui, ça c'est bon, c'est clair. Mais c'est, en d'autres termes, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont on est responsable, c'est bien plus haut que ça. Parce que ça, c'est normal qu'on soit responsable, puisque c'est. On est responsable de ce qu'on fait, quoi. Mais être responsable pour des choses qui nous dépassent, là, être responsable de la météo, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse complètement. On voit curieusement que, toujours dans cette Gemara, dans ce cas là-bas autour, que le problème de la météo, justement, elle est très fortement dépendante des hommes. La Gemara, elle dit que la seule tfila que faisait le Kohen Gadol à Kippour, c'est la prière pour demander à Hachem de ne pas écouter la prière des voyageurs qui veulent qu'il ne pleuve pas quand le monde a besoin de la pluie. Ça veut dire qu'il ne faut rien moins que la prière du Kohen Gadol à Kippour pour que la prière des voyageurs ne soit pas écoutée. Il faut aller jusque-là, jusqu'à la prière du Kohen Gadol à Kippour pour annuler la, enfin pour empêcher. Hachem écoute la tfila, la prière des voyageurs. C'est incroyable, le monde a besoin de ça. Il y a des gens qui. Ça veut dire que ces voyageurs, ils.
Ils ont une force de conviction.
Oui, ils veulent vraiment qu'il ne pleuve pas. Mais ça veut dire qu'ils veulent. En fait, ils veulent aussi quelque chose qui est contre eux. Ils s'en fichent. Ils sont irresponsables. Vouloir qu'il ne pleuve pas, pourquoi? Pour que moi je ne me fasse pas mouiller alors que le monde entier a besoin d'eau?
Je ne comprends pas, à l'époque il n'y avait pas les congés payants. Pourquoi ils voulaient spécialement du soleil? C'était pas là pour les vacances,
c'est peut-être qu'il y avait le congé payé, vous ne savez pas.
Dont il n'a pas complètement conscience, mais il aurait une tâche comme ça
Non, je ne veux pas qu'il n'a pas conscience. C'est qu'on lui donne une tâche dont il peut très bien avoir conscience, mais dont il sent tous les jours que... Ouais, parce que quand on prie pour demander les choses pour le monde, je demande la paix dans le monde, je demande l'abondance, etc. Pourquoi je demande à Hachem? Parce que je suis responsable. C'est pour ça que je lui donne des ordres. La fila est l'impératif. Pourquoi je donne des ordres à Hachem? Je dis, tu m'as mis responsable, et ma responsabilité, ça consiste à te le demander, parce que moi, tout seul, je ne peux pas le faire. Et donc, voilà, je me tourne vers toi, mais je me tourne vers toi comme si, en me donnant la responsabilité de gérer le monde, tu m'en avais donné le pouvoir de donner des ordres, de te donner même à toi des ordres. Puisqu'il faut bien que je donne des ordres, puisque je suis responsable. C'est-à-dire, pas demander si tu veux bien, etc. Parce que si tu veux bien, et si tu veux pas, alors quoi? Moi, je suis responsable, alors je te redonne. On peut parler comme ça. Je te demande instamment. C'est ça l'impératif, non? On n'utilise pas l'impératif pour des supplications. On utilise l'impératif, c'est pour donner des ordres. Voilà.
Good Shabbos.
Shabbos.